traitait de salaud. Nous vivions nos vertiges dans des vibrations folles et gerbions nos enzymes en nous gueulant moteur. Mais entre deux voyages, entre deux verres d'alcool, nous n'avions pas le temps de décompter nos heures. Compter nos heures.
Bonjour à toutes et à tous, il est 17h, nous sommes le mercredi 24 janvier 2024, 1h30 pour vous parler de livres et échanger avec des acteurs de la chaîne du livre, 1h30 jusqu'à donc 18h30 à écouter au fil des pages sur Radio Libertaire. Ce soir, Frédéric, Agnès, Marie, Dominique, Francis et notre invité, Éric Fougeron, de l'Association des Amis IES et des Amis IS de la Commune de Paris 1871, pour nous parler d'un de leurs livres collectifs auxquels il a largement contribué, ouvrage intitulé « Les Inconnus de la Commune de Paris » publié en 2023. Avant de laisser Marie mener cet entretien, je vous expliquerai pourquoi il nous a paru judicieux de recevoir Éric aux alentours du 22 janvier. Frédéric, il n'y a pas d'annonce particulière, mais moi je vais en annoncer une, c'est-à-dire la fête du livre. Le samedi 27 janvier et le dimanche 28 janvier, de 10h à 18h et le dimanche de 11h à 16h, des livres d'occasion, des livres neufs, de la BD, des romans, etc. Ce sont les éditions Noir et Rouge, 8 impasse Crozatier dans le 12e arrondissement, métro Federme-Chaligny sur la ligne 8, qui vous propose vraiment des livres de très belle tenue et à des prix défiant toute concurrence. En plus de nous écouter, vous pouvez nous écrire notre adresse postale. On a encore reçu aujourd'hui un numéro consacré de la revue 303, qui est une revue la revue culturelle des Pays de la Loire, consacrée à Michel Ragon. Je pense qu'on aura l'occasion de recevoir pas mal de revues, de livres consacrés à Michel Ragon cette année pour sa naissance. Bon. Librairie Publico, je rappelle l'adresse, Librairie Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e. On aime bien recevoir de vos nouvelles. Premier temps de l'émission pour alimenter le débat. Alors on va donner la parole à Agnès, parce que Agnès, l'art ne peut-il se pratiquer qu'à Paris ? Cette ville, surtout au début du siècle dernier, constituait un creuset intellectuel et tu nous en avais fait part, voici une quinzaine de jours, lors de la présentation de l'exposition « Le Paris de la modernité, 1905-1925 ». Aujourd'hui, c'est un peintre qui a retenu ton attention. Alors, de quoi s'agit-il ?
Oui, il s'agit de Achille Loger, un peintre en hiver, écrit par Michel Tesser, publié aux éditions Serge Safran en 2023. En fait, c'est le récit comme un rendez-vous manqué. Michel Tesser entre dans l'intimité du peintre, les paysages, la lumière, les villages, les rencontres, la maison et les émotions d'Achille, comme si elle l'avait rencontré. Partager avec lui tout ce chemin, toutes ses pensées, jusqu'à appréhender la moindre chose de son existence.
Mais alors, qui est ce Achille Loger ?
Achille Loger est né en 1861 et décédé en 1944. Il était fils de paysan de l'Aude, de ces paysages méditerranéens entre Carcassonne et Toulouse, vers la Montagne Noire. Son père lui souhaitait une carrière de pharmacien pour l'éloigner de la dure vie de campagne, alors que lui opta pour une formation artistique en rejoignant tout d'abord les Beaux-Arts de Toulouse, puis Paris, où il rencontra des artistes et surtout trouva sa place artistique dans le mouvement de l'école des néo et post-impressionnistes.
Alors on va voir justement pourquoi, pourquoi j'ai posé cette question, est-ce qu'on peut exister ailleurs qu'à Paris sur le plan artistique? Et c'est je crois dans les années 1880-1910, hein, c'est ça?
Tout à fait, il s'installera d'abord rue Bonaparte dans un petit logement précaire où il invitera son ami à vie, Antoine Bourdel.
Mais le sculpteur, c'est
oui,
ça?
Oui, tout à fait. Mais il rencontrera aussi Mayol et d'autres peintres comme lui de province qui essayent l'avenir d'artistes.
Alors, Bourdel et Mayol, ce sont deux sculpteurs qui sont promis à un bel avenir.
Une fois formés, oui. En effet, Achille Loger, profondément attaché à son terroir natal, lui souhaite revenir à sa terre dans les petits villages qu'il affectionnait tant. On l'y retrouvera d'ailleurs marié et père de famille.
Lui donc, il rentre. Il ne veut pas rester à Paris.
Il veut retourner dans sa province. Il est et restera un artiste solitaire qui cherche à évoquer la lumière et la reconnaissance de l'harmonie des couleurs. Et encouragé par son ami Bourdel et par les bourgeois des alentours, il restera dans ses paysages méditerranéens toute sa carrière en fait. Comme Claude Monet, il se construisant une barque où il put peindre à loisir tous les paysages qui le séduisaient, lui se construira une roulotte avec laquelle il arpentera toute la région. Ses compositions sont essentiellement des natures mortes dans l'esprit de Signac, de Seurat et quelques-unes en hommage à Puvis de Chavannes qu'il admirait tant.
Mais il y a aussi des paysages à la lumière typique du Sud.
Oui, bien sûr, de ces paysages, on retient cette grande lumière blanche, des paysages d'une grande pureté, souvent accompagnés d'amandiers, de villages. Je cite « Sais-tu que ce moment est unique? Reviens demain, à la même heure, et tout sera différent. Quelque chose aura changé dans le ciel, dans la couleur des vignes. Il suffit que le vent tourne, et patatras, les platanes auront perdu leurs feuilles, les genêts auront terni, ou le contraire. Enfin, bref, rien ne sera pareil. »
Et pendant ce temps, tout change à Paris, je le crains pour lui.
En effet, pendant tout ce temps où Achille peint depuis sa terre natale, beaucoup de choses évoluent dans les cénacles artistiques de la capitale et Achille Loger n'est plus au fait des nouveautés. Lui qui était très enthousiaste d'un projet avec les Gobelins se voit remis à sa place avec la culpabilité et les remords de n'avoir pas pu décerner plus tôt tout cela pour préserver sa famille. Son œuvre en restera là de son vivant.
Mais l'autrice Michel Tesser a comme un attachement affectueux envers ce peintre, je trouve.
Oui, c'est touchant du reste. Michel Tesser s'adresse à lui. Je cite « Mon pauvre Achille, dans quel exil t'es-tu aventuré ? Tu oses parler d'exil avec cette lumière ?» lui répond-il. « Tu as raison, la remarque est injuste. Tu fronces les sourcils, tu détournes les yeux et moi de penser. » Tête de mule, tu ne seras donc jamais satisfait. Une fois de plus, tu t'esquives, tu fausses compagnie. Ton regard est insaisissable. Comme à l'école, comme sur la photo officielle, comme sur les portraits. Tendu, frémissant, c'est celui d'un animal aux aguets. J'approche ma main de ton visage, tente de l'effleurer. Un vigile a déjà repéré mon manège. Pas question de toucher, même pas du bout du doigt.
Je pense que c'est un échange dans un musée. Hein,
tout à fait, tout à fait. Je vous invite de la même manière à aller le rencontrer en lisant donc Achille Loger, un peintre en hiver, Michel Tesser aux éditions Serge Safran.
Paru en 2023. Hein, c'est ça. Très bien. Donc, un livre dans le domaine artistique. Et puis là, on va passer dans un autre style. Dans cette première partie où on ouvre le débat sans rien refermer, car finalement, tout donne matière à réflexion. Et là, je vous propose un livre qui a suscité des échanges vigoureux sur la méthode utilisée et sur le contenu. Il s'agit du dernier livre de Thomas Piketty et de Julia Cagé, Une histoire du conflit politique, élections et inégalités sociales en France, 1789-2022, publié au Seuil en 2023. Ah, Piketty est coutumier de l'ouvrage dense qui crée le débat. Rappelons-nous Le Capital au XXIe siècle, Une brève histoire de l'égalité. Là, il récidive, en compagnie de Julia Cagé, sur Une nouvelle somme, une histoire du conflit politique, dans la nouvelle collection Éco-histoire. Commenter ce livre sur les ondes d'une radio à la méfiance proverbiale à l'égard des élections peut paraître pittoresque, parler d'élections. Bon, pourtant, l'analyse de l'évolution de la société française sur une longue période, et jusqu'à l'an passé, donne aux habitants, aux citoyens, aux militants, matière à réflexion et à argumentation. C'est pourquoi nous le présentons dans la rubrique « Pour alimenter le débat » de notre émission au fil des pages sur Radio Libertaire. Nous voilà donc partis pour une promenade dans le temps. Le texte est dense. Heureusement, il est scandé de 11 reproductions de documents, 47 cartes, 273 graphiques, plus souvent en couleur. Et puis, grande originalité, moi ça m'a bien intéressé, et ça montre bien la complémentarité qu'il va y avoir dans les années qui viennent entre la version papier du livre et puis l'Internet, ou en tout cas des compléments sur des sites. Le livre trouve son complément d'annexe et de référence sur un site qui s'appelle tout attaché, une histoire du conflit politique.fr, un travail de titan pour numériser les procès-verbaux des élections sur 2 siècles dans 36 000 communes. Testez ce site avec votre commune, c'est très éclairant. 2 questions basiques, qui vote pour qui et pourquoi ? Comment la structure sociale des électorats des différents courants politiques en France a-t-elle évolué sur 2 siècles ? Bipartition, tripartition de la classe politique et des classes sociales. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une tripartition dont on ne connaît pas l'issue. En gros, il existe un bloc central, regroupant un électorat plus favorisé que la moyenne. Le vote le plus bourgeois de toute notre histoire, ben ça c'est clair, on voit très bien de qui il s'agit. Autour de lui, 2 autres composantes des classes populaires urbaines et rurales, et les auteurs relèvent par cette étude sur la longue période que cette tripartition existait déjà à la fin du 19e, début 20e siècle, bien sûr, et c'est au cours des 70 dernières années du 20e siècle que la bipartition s'est installée dans le paysage politique, entraînant un réel progrès économique et social. Et les auteurs de réfléchir à la notion de démocratie. Je cite « Si la démocratie est une promesse jamais entièrement réalisée, un projet toujours en cours, une tentative imparfaite de réguler les conflits sociaux par la délibération et par le vote, et d'aller toujours plus loin dans la voie de l'égalité sociale et politique, alors le laboratoire français ouvre un cadre idéal permettant de mieux comprendre les chemins complexes et les bifurcations inabouties que cet espoir peut emprunter. » Je veux dire que c'est vrai que notre pays est un laboratoire institutionnel qui ravit tous les spécialistes. Je crois qu'on a eu un paysage assez étonnant du 19e siècle jusqu'à la fin du 20e sur à peu près tous les régimes politiques. Et au-delà de l'analyse fouillée de notre société, sur 2 siècles, j'insiste, les auteurs en appellent à une démarche militante. C'est leur engagement, bon, et je le respecte, à une mobilisation du bloc social écologiste. Pour autant, l'analyse statistique trouverait ses limites si elle en restait aux résultats des différentes élections. Et les auteurs font le lien avec les inégalités sociales, les injustices, démontrent la réalité du conflit de classe. Vous savez, c'est très à la mode aujourd'hui de dire « il n'y a plus de lutte des classes, c'est un truc de vieux, ça s'est dépassé ». Non, il y a toujours une lutte de classe. Et des classes géosociales, des classes économiques, en des temps où il est de bon ton de se moquer. Bon, parlons du retour des inégalités territoriales. Les métamorphoses des inégalités éducatives, de la nouvelle diversité des origines. Je crois que là, on est en plein avec ce que nous sommes en train de vivre dans le pays en ce moment. On est en plein confronté à ces inégalités. Alors, ils font des propositions pour alimenter le débat. Il faut les lire, à vous de les découvrir et puis d'apprécier. Leur conclusion, je cite, « Insistons sur le fait que toutes les hypothèses et les interprétations présentées ici méritent naturellement une ample discussion. J'aime ce souci du débat. Notre objectif dans ce travail est d'ouvrir le débat, voilà, sur une base empirique et historique renouvelée, et nous espérons que les interprétations défendues dans cet ouvrage, ainsi que les données mises en ligne, permettront à chacun de préciser ses hypothèses et contribueront à nourrir à l'avenir l'indispensable confrontation démocratique sur ces questions. J'aime beaucoup cette approche qui consiste à donner des infos et après, chacun se positionne, chacun réfléchit et c'est ainsi que le débat se crée dans un pays. Julia Cagé, Thomas Piketty, Une histoire du conflit politique, Élections et inégalités sociales en France, 1789-2022, édition du Seuil, 2023. Et nous allons clore cette présentation par une chanson que vous aviez beaucoup aimée en septembre 2023, lorsque nous avions reçu Monique Pinson-Charlot pour son livre « Le méprisant de la République ». Une chanson à la gloire, de. Vous allez écouter. Comme quoi les élections, ça crée aussi débat. Frédéric, on en voit.
Oulala, non, oulala, oulala, pas cette version. Non, j'en préfère une autre. Écoutons plutôt celle-là.
Emmanuel Macron, c'est un vrai président. Il fait jamais d'erreur, il est très séduisant. C'est lui le mal alpha, un exemple pour nos enfants. Il est toujours sympa, il n'est jamais méprisant. C'est un cheveux. Et si tu le critiques, on t'envoie la police. Mais on ne peut rien lui reprocher. La France, oui, c'est son projet. C'est le moins pire.
Et voilà, il faut, et oui, la chanson à la gloire d'Emmanuel. Bon, il faut regarder la vidéo qui accompagne cet hymne idolâtre au second degré, bien sûr. Je voudrais présenter là un troisième livre consacré à Paris. Bah oui, petit à petit, on arrive vers Paris. Et avant d'échanger avec Éric Fougeron sur la Commune de Paris, parlons du Paris littéraire. Les éditions Séguier nous offrent un livre copieux. Un vrai régal. Alors, les auditrices et les auditeurs le savent bien, j'accorde une importance particulière aux couvertures des livres. Certaines m'affligent, d'autres me laissent de marbre. Il en est qui m'enchantent et qui m'amusent, et c'est le cas du grand carnet d'adresses de la littérature à Paris, paru chez Séguier en 2023. En couvre, vous avez donc un plan de Paris, en fond grisé, avec les grandes artères. Sans difficulté, vous repérez les arrondissements, et puis vous repérez des personnages. Vous repérez, tiens, Pérec, dans son 20e arrondissement. Apollinaire, en plein 15e. Ah bah oui, le pont Mirabeau. Balzac domine Paris, de son nid d'aigle, rue Raynouard, dans le 16e. Et vous les reconnaissez toutes et tous. Colette, La Fontaine, Dumas, Sartre et de Beauvoir. Et dans le coin, vers le 12e, et Rimbaud. Et tous les autres. Cette couverture nous invite à déambuler dans les centaines de voies, d'avenues, de rues, d'impasses, vers les adresses des écrivains parisiens. 1200 pages. Un pavé parisien qui vaut son pesant de littérature. C'est un plaisir, au fil des pages, que d'accueillir un ouvrage d'un éditeur dont nous parlons pour la première fois, les éditions Séguier. qui est un éditeur de curiosités, curiosité avec un S à la fin, comme il se présente. Et c'est vrai, c'est très intéressant. Découvrons un auteur passionné de Paris, comme nous. Il aime Paris et nous connaissons déjà Gilles Cesser, auteur de plusieurs ouvrages consacrés à Paris, les promenades littéraires dans Paris, Paris dans les pas de Patrick Modiano, j'adore, Picasso à Paris, chez Paris Gramma, c'est bien parti. C'est d'autant mieux parti que je découvre avec plaisir en introduction une citation de Katrina Calda. À Paris, si on ne fait pas attention, on se met vite à marcher dans un livre. Oh, c'est un plaisir pour nous, hein, au fil des pages. Au terme de plus de 1000 écrivains recensés, je cite toujours, alors là je cite Gilles Cesser, au terme de plus de 1000 écrivains recensés, autant de rues, avenues, boulevards et de plusieurs milliers d'adresses inventoriées, je ne regrette pas d'avoir entrepris cette immense balade, car Paris est une ruche qui bombille, vous apprécierez le terme, en permanence, la littérature est son miel et chaque quartier se nourrit de milliers de livres tissant une toile inépuisable. Il faut donc vivre au fil des pages, découvrir les célébrités autant que les oubliés de l'histoire littéraire. Prenez ce livre comme un guide. Oh, il est un peu lourd, donc vous pouvez sélectionner un boulevard, celui du Montparnasse par exemple. Tiens, voici Léon-Paul Fargue, mon préféré avec le piéton de Paris. Le Select, vous savez, le bar, avec ses vedettes, Hemingway, Desnos, La Rotonde, avec Mas Jacob, Philippe Solers, à la closerie des Lilas, tout comme Paul Fort. Ou plutôt, vous préférez les quartiers? Eh bien, allez vous promener du côté de la rue du Regard avec une citation de Jacques-Alain Léger. « Et mes pas m'ont conduit comme par hasard rue du Regard. Vous croiserez les ombres de Chateaubriand, Henri de Monterland, rue Saint-André-des-Arts, Régine Desforges, poursuivi par ses publications érotiques, et la rue Saint-Benoît abrite Sainte-Beuve, Marguerite Duras, évidemment, le collabo Raymond Fernandez et l'oublié Maurice Rollinat, proche de Georges Sand. C'est amusant d'avoir Marguerite Duras d'un côté résistante et le collabo Fernandez. Allez vers des arrondissements presque dédaignés. Le dixième, tiens, a peu d'auteurs dans le dixième y résident. Fargue écrivait, c'est un quartier de poètes et de locomotives. Bah, évidemment, il y a les gares. Une citation introduit le secteur, un plan, avec quelques lieux emblématiques. Et puis, là, en l'espèce, il y a les deux gares, la Porte Saint-Louis, la Place de la République, le boulevard de la Chapelle. Tenez, au boulevard de la Chapelle, au 17, Joseph Delteil. Rue du Faubourg Poissonnière, Solderlo de la Clos. Plus loin, Boris Vian, rue du Faubourg Saint-Martin. Gaston Leroux et son célèbre fantôme de l'opéra, son mystère de la chambre jaune. Et dans le 11e, je ne peux pas manquer évidemment le boulevard Richard Lenoir, où loge au 132, précisément, Jules et Louise Maigret, bien sûr. Mais c'est un feu d'artifice, de références, de découvertes, d'invitations à la promenade, d'invitations à la relecture. Relisons par exemple Eugène Dabi et sa nouvelle « La Lampe », rue de Romainville. Songeons par exemple que Jean-Jacques Rousseau herborisait dans le 20e arrondissement vers la rue Villain, chère à Georges Perret, la rue Villain qui a disparu puisqu'à la place on y a fait le parc de Bellevue. Pour vous y retrouver, parce que là on se perd un peu quand même, hein, vous avez un index des noms des écrivains, un autre pour le nom des rues, une bibliographie sélective et puis... Peut-être que vous souhaitez vous y perdre dans cette ville splendide comme dans la vie parisienne, mais n'ayez pas peur. Toujours référence, Paris est tout petit pour ceux qui s'aiment d'un aussi grand amour, les enfants du paradis. Boulevard du crime, je vous laisse aller du côté du temple. Je rappelle le titre, Gilles Schlesser, le grand carnet d'adresses de la littérature à Paris, édition Séguier 2023. Et oui, on peut rappeler que les écrivains n'étaient guère, et nous arrivons tranquillement à la deuxième partie de notre émission, les écrivains n'étaient guère favorables à la Commune de Paris, hormis Jules Vallès, Verlaine, Rimbaud, et notre ami Paul Litsky, adhérent des Amis de la Commune, l'explique fort bien dans son classique Les Écrivains contre la Commune, qui était paru initialement chez Maspero et réédité à la Découverte. Vraiment un livre à lire qui fait tomber un certain nombre de têtes, on va dire ça comme ça, quand on voit les propos de Zola sur la Commune de Paris. Alors pourquoi parler de la Commune en ce moment et pas le 18 mars? Parce qu'on aurait pu dire, tiens, en souvenir de la prise des canons par les Versaillais, enfin de la tentative en tout cas, ou le 26 mars, le jour des élections. Oui. Tout simplement parce qu'en janvier 1871, le peuple de Paris refuse la défaite. Dénonce dans une manifestation les atermoiements du gouvernement, il y a des coups de feu, et le 22 janvier, des morts sur la place de l'Hôtel de Ville. Louise Michel le raconte très bien dans son livre, tout comme Mémoire d'une mort vivante.
Oui, tout à fait. Il y a eu 5 fusillés, c'est ça, normalement.
Ouais, c'est ça.
Ouais, la répression.
Et c'est l'opposition entre le peuple parisien et le peuple versaillais. Marie, tu nous as proposé d'inviter Éric Fougeron.
Oui.
Alors, à toi de jouer.
Alors, Éric, bienvenue.
Merci.
Dans l'émission Au fil des pages. Et puis, bienvenue, tout simplement, à Radio Libertaire. Hein. Alors, nous allons commencer. Donc, aujourd'hui, nous parlons du livre Les Inconnus de la Commune, qui est paru, il est édité par l'association donc, des Amis de la Commune de Paris 1871, en novembre 2023, tout récemment. Donc, toi, tu fais partie, bien sûr, des contributeurs de ce livre, qui est un ouvrage collectif, bien évidemment. Et donc, tout d'abord, une question un peu pour introduire. Peux-tu nous dire ce que représente pour toi l'Association des Amis de la Commune de Paris, puisque tu en es adhérent, et quelles sont les raisons qui t'ont conduit à t'y engager?
Alors, déjà, merci de l'invitation et bonjour à tous et toutes. Alors, tout simplement, je vais remonter un petit peu en arrière. J'avais 11 ans en 68 et en 1971, j'en avais 14, j'étais alors inscrit comme élève au lycée Turgot près de la République, à Paris bien sûr, et j'ai assisté donc à des débats, des tas de choses qui m'ont éveillé à cette période historique particulière, et il y a eu aussi la chanson de Jean Ferrat sur la Commune qui a été faite à cette occasion d'ailleurs. Alors ensuite, je suis rentré dans les activités professionnelles. Et puis, il y a maintenant une bonne quinzaine d'années, je passais à la Butte aux Cailles, là où se trouve le siège de l'association Les Amis de la Commune de Paris, 1871. Et un jour, je ne me souviens plus des détails, mais j'ai dû entrer, tout simplement, parce que s'il y en a qui ont l'occasion de passer, vous verrez, c'est une vitrine extra et on a toujours un accueil très sympathique.
On rappelle l'adresse peut-être
Oui, au 46 rue des 5 Diamants. Donc en plein dans la Butte aux Cailles.
Voilà, pas loin de la place d'Italie.
Tout à fait. Et pas loin de la place de la Commune, bien évidemment.
Bien évidemment. Et donc, un jour je suis entré, j'ai adhéré, puis depuis j'ai réadhéré régulièrement. Et puis en fait, je me suis pas impliqué jusqu'au moment où je suis arrivé à la retraite, c'est-à-dire il y a 4 ans maintenant. Mm-hmm. Et là, j'ai commencé à me poser plus de questions sur la Commune, à m'y intéresser davantage. Et puis j'ai assisté, je crois que c'était en décembre 2021, à l'Assemblée Générale qui se trouvait à la mairie annexe du 14e. Mm-hmm. Et là, bien évidemment, c'est une Assemblée Générale, donc présentation du rapport moral, rapport financier, les votes, etc. Et une certaine Marie-Claude Villard a parlé d'un projet de livre sur les inconnus de la Commune. Mm-hmm. Et je ne sais pas, je suis allé la voir et je me suis retrouvé, pour parler un peu familièrement, embringué dans cette aventure.
Mm-hmm. Voilà. Tout à fait.
Alors, à partir de là, j'ai participé avec d'autres, nous étions 6 ou 7 de mémoire, à l'élaboration de cet ouvrage collectif, comme vient de dire Marie.
Mmh. Et donc, en tant que membre de la commission littérature de l'association, tu as discuté avec Marie-Claude Villard, tu t'es engagée dans ce projet de l'élaboration du livre des Inconnus de la Commune. Donc, peux-tu nous dire en fait comment ce projet a vu le jour et pourquoi justement le thème des Inconnus de la Commune?
Alors, je ne sais pas véritablement le pourquoi des inconnus de la commune, mais je pense, étant aussi maintenant à la bibliothèque pour faire des permanences occasionnelles, je pense que il y a déjà pas mal d'ouvrages qui sont faits sur les gens célèbres de la commune. Hein, je pense en particulier à Nathalie Lemel, à André Léo, dont on va célébrer cette année le bicentenaire de la naissance.
Tout à fait.
Jules Vallès, Maxime Lisbonne, Dan Hinks a fait un livre récent sur, sur ce personnage haut en couleur de la commune. Et je pense que c'est un peu en rupture avec ces célébrités de la commune qui a été décidé de faire un livre sur les inconnus de la commune.
Oui, tout à fait. En plus, ils s'inscrivent tous dans un thème, hein, parce que c'est un ouvrage quand même très thématique, hein, les inconnus de la commune, mais ça couvre vraiment tout. Tout ce qui s'est passé en fait pendant la commune, hein,
tous les aspects,
tout à fait, voilà, c'est la commune sous tous ses aspects, donc en y intégrant bien évidemment des noms de communardes et de communards qui ont participé, mais effectivement dont on ne parle pas dont on n'a pas beaucoup parlé effectivement, déjà parce qu'il n'y a pas forcément toujours beaucoup d'informations, hein, sur ces personnages, d'ailleurs certains on a retrouvé leur prénom, mais pas forcément leur nom de famille. Hein. Les recherches sont des fois un petit peu complexes, hein, dans les archives.
Sans compter ceux dont on ne connaîtra jamais l'identité, aussi bien des femmes que des hommes, de tous âges, qui ont participé, qui ont probablement été tués, dont on ne saura jamais rien.
Bien sûr, hein, il y en a quand même eu un certain nombre.
On estime à combien le nombre de fusillés ?
Alors, la semaine sanglante, l'estimation haute, c'est 30 000 tués. Et l'estimation basse, c'est de 15 à 20 000, d'après ce que... D'après
250 que selon la police, non
oui.
Voilà.
On peut
rappeler, par exemple, il y a une photo, moi, qui m'a marqué. C'est ce jeune garçon, ce jeune homme dont on ne connaît pas le nom, avec simplement une mention « fusillé ».
Voilà. Tout à fait.
Les inconnus de la commune, c'est ça. C'est bon, il y a tous les grands, enfin tous ceux qu'on connaît, Louise Michel et compagnie. Oui. Mais il y a aussi des gens dont on connaît que la femme machin, l'homme machin, voire personne.
Oui.
Et ceux-là étaient sur les barricades et sont morts aussi pour ces idéaux, cette République universelle, etc.
Bien sûr, tout à fait. Et donc, comme je l'ai dit auparavant, donc dans cet ouvrage, donc plusieurs thématiques y sont abordées. Chaque contributeur de l'ouvrage s'est chargé de travailler sur une ou plusieurs thématiques. Et donc toi, Eric, tu as traité celle des tribunaux et de l'amnistie des communards.
Tout à fait. Hein, c'est-à-dire, voilà. Disons, les chapitres à la fin, disons,
de
l'ouvrage.
Oui, plus hein. À la fin, effectivement. Voilà.
Effectivement. Alors, là, j'ai pris quelques petites notes, parce qu'on ne peut pas se souvenir de
bien
tous
sûr,
les
bien
chiffres
sûr,
et tout
hein.
Ça. Alors, concernant le chapitre sur les tribunaux, il y avait au total 26 conseils de guerre.
Mm-hmm.
Hein, c'est-à-dire que les...
C'est quand même énorme.
Voilà, bien sûr. Mm-hmm. Et qui se trouvaient à Versailles et à Satory. Alors, par exemple, ces procès ont duré de 1871, donc dès la fin de la Commune, jusqu'en 1879.
Oui, hein,
c'est-à-dire sur une période quand même longue. Hein,
ah, bien sûr.
Parce qu'il y en avait tellement à juger. Hein, c'est-à-dire, il y a eu 38 600 individus, majoritairement des hommes, mais pas que. Il y avait aussi des femmes et des enfants qui ont été jugés. Et au total, il y a eu 2500 acquittements et 23 000 prononciations de non-lieu. C'est-à-dire que quand même, on a une grande majorité qui, pour certains, un petit nombre, hein, parce que les choses étaient un peu apaisées quand même, ont été fusillées.
Oui, tout à fait.
D'autres qui ont été condamnés à la déportation ou à l'emprisonnement, selon le cas.
Tout à fait,
voilà.
Oui.
Donc, sur ce chapitre-là, je me suis servi du site de la Commune de Paris, puisqu'il y a quand même des éléments sur cela.
On peut rappeler le site de l'association ?
Ah, le site de l'association, il suffit de taper les amis de la Commune de Paris, et là, automatiquement, sur un, comment ça s'appelle,
un moteur de recherche,
et là, ça s'affiche directement, et là, on a toutes les informations et la possibilité de pouvoir naviguer sans problème.
Je crois qu'on peut même retrouver les les bulletins de l'association.
Oui, bien sûr.
C'est une mine. Hein, c'est
beaucoup, beaucoup de choses.
Tout à fait.
Alors, je me suis servi, bien sûr, des informations qui étaient données sur le site. Je me souviens aussi, alors là, je ne pourrais pas citer précisément mes sources, parce que ça remonte déjà maintenant à un certain temps, que je me suis servi aussi d'un site de la mairie de Paris, qui était très bien fait.
Alors
après, bien, il y avait des informations des uns et des autres. J'ai combiné ça à ma façon. Il faut dire qu'on était limité dans le nombre de signes.
Oui, hein, tout à fait.
Compris, hein, ce qui était normal. Chacun avait un lot à faire. Pareil pour les photos des communards et des communards prises par appel à l'époque. Hein. On avait le droit, je crois, de mémoire à 500 signes espace compris. Donc, il fallait réduire un peu les informations pour arriver à rentrer dedans.
Oui, hein. Parce que bon, c'est pas un dictionnaire des inconnus de la commune. Donc, effectivement. Hein, le livre fait une centaine de pages, illustrations comprises. Donc, évidemment, chacun doit pouvoir se limiter un peu, même si on a envie d'en dire toujours un peu plus.
Effectivement. Voilà, donc on a tous bien joué le jeu. Hein, la preuve, le livre n'a pas, il n'y a pas eu de problème de maquettage, etc.
Et puis, tu t'es aussi servi du dictionnaire Métron.
Tout à fait, oui. Alors, le dictionnaire Métron, c'est aussi une mine. Hein. Je ne savais même pas que ça existait. Hein. Et puis, là, j'ai découvert son existence.
Bien sûr.
C'est une mine d'informations sur la commune, mais aussi sur d'autres aspects de l'histoire.
Parce qu'en fait, c'est le dictionnaire du monde ouvrier, hein,
oui, c'est ça.
Le Métron.
Ouais.
Hein,
Et là, il y a justement toutes ces photos-là que l'on voit dans notre ouvrage collectif, qui sont, pour l'essentiel, tirées, je parle des portraits, qui sont tirés du Métron.
Tout à fait.
Alors, comment ça s'est organisé. Ensuite, une fois l'idée lancée, Marie-Claude Villard a chapeauté l'équipe.
Oui.
On avait des réunions occasionnelles, de mémoire, une fois par mois ou tous les deux mois.
Oui.
On faisait le point sur ce qui avait été fait. Et puis, elle nous donnait de nouvelles pistes pour la fois d'après.
Hein,
et on avançait de cette manière, par étapes, jusqu'à l'aboutissement des relectures et les vérifications qui ont été faites, m'a-t-on dit, par des historiens, je ne sais pas qui, mais on peut penser à Jean-Louis Robert Roger Martelli, qui sont repassés derrière, pour voir si on n'avait pas écrit des choses fausses.
Tout à fait. Bah, oui, il y a quand même un travail derrière.
On est bien d'accord, c'est un ouvrage d'histoire.
Tout à fait. Et donc maintenant parlons un petit peu de l'édition du livre. Donc pour ce qui est de la conception graphique, l'association a fait appel à une éditrice et une maquettiste. L'éditrice, il me semble, est basée en Corrèze d'ailleurs. Et pour le tirage, à Mogin Imprimeur, qui par ailleurs s'occupe de l'impression des 4 bulletins trimestriels édités par l'association. Donc comme nous avons pu le constater, cet ouvrage abonde d'illustrations. Donc comme tu m'avais dit, tu as pu en choisir quelques-unes pour tes thématiques respectives.
Tout à fait. Alors, en fait, on a choisi chacun dans le Métron les portraits, hein, je viens de l'évoquer.
Tout à fait.
Et on avait aussi, pour illustrer nos chapitres respectifs, la possibilité de proposer des illustrations.
Oui. Mmh.
Alors, j'en ai proposé, comme les autres, un certain nombre. Hein. On en avait quelques-unes, un nombre limité à présenter. Alors là, on les retrouve, pareil, sur les sites internet.
Il y a des caricatures, il y a des affiches concernant la presse,
des photos, des dessins, tout à fait. Alors, on a proposé chacun ses illustrations. Et à partir de là, il y avait le problème des droits.
Oui.
Donc, certaines n'ont pas été choisies.
Oui.
Et puis, la maquettiste, de son côté, a pu éventuellement proposer d'autres illustrations qu'elle détenait à la place de celles qu'on avait proposées. Mais ça n'a pas posé de problème majeur.
Hein, non.
Ce qui compte, c'est le résultat final.
Oui.
Et là, je le dis franchement, là, du fond du cœur, je ne m'attendais pas, en me lançant dans cette aventure, à un résultat final aussi réussi.
C'est
vrai qu'il y a une très belle iconographie. Moi, je vois des affiches, mais il faut dire que l'iconographie, elle est aussi servie par les dimensions de l'ouvrage. Hein. C'est un grand livre, c'est pas un
bouquin. Tout à fait. Poche, hein. Il fait quand même une trentaine de centimètres de longueur.
Alors, on va retrouver l'affiche rouge au peuple de Paris, on va retrouver le manuscrit du Dormeur du Val d'Arthur Rimbaud, puisque Rimbaud a été proche de la commune. On va retrouver les célèbres canons de Belleville. On va retrouver des tableaux comme l'émeute. J'ai beaucoup aimé aussi l'émeute de Daumier. Donc il y a vraiment une volonté d'enrichir et le livre se lit très aisément. C'est pas un livre d'érudition. Bon, on peut trouver les deux. Et nous, on apprécie les deux. Mais là, je trouve ça intéressant de voir cette aisance dans la lecture.
Effectivement, le texte appuie les images et les images appuient le texte.
Oui. Voilà,
de manière équilibrée.
Oui. C'est quelque chose
qu'on retrouve pas systématiquement dans des ouvrages portant sur des aspects historiques.
Oui. Bah, même nous, tous les ouvrages qu'on a à l'association, c'est pas toujours effectivement illustré de cette façon-là. Et c'est quand même agréable parce que du coup, en fait, nous, jusqu'à présent, sur les 1000 exemplaires qu'on a pu recevoir au local et qui sont en vente. Je rappelle que c'est une édition limitée, hein, à 1000 exemplaires. Il n'y aura pas de seconde réédition normalement. Donc il y en a à peu près 300 qui ont été vendus jusqu'à présent, hein, entre novembre et janvier, donc ce qui est quand même pas si mal, dont beaucoup à l'approche de Noël, etc., ont voulu faire des cadeaux. Et en fait, c'est un large public, c'est-à-dire il y a des jeunes, des moins jeunes, et vraiment, c'est ça qui est bien avec ce livre, en fait. C'est que c'est pas un livre d'universitaire ou quelque chose qui pourrait sembler un peu... c'est pour tout le monde. Quoi.
C'est ça,
voilà.
C'est pour un public large.
Voilà.
Connaisseur plus ou moins de la commune,
oui.
Voire pas du tout. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est effectivement, comme tu l'as dit Marie, il y a 1000 exemplaires qui ont été édités.
Oui.
Normalement, il n'y aura pas de réédition.
Voilà, voilà.
Ce sera, comme on dit aujourd'hui, des livres collector.
C'est collector. C'est important de le rappeler.
Et j'ajouterai, puisque j'en ai parlé avec Marie-Claude Villard un peu avant les fêtes, elle m'a dit que c'était l'association Les Amis de la Commune de Paris 1871 qui avait l'exclusivité
de la vente.
De la vente.
Tout à fait.
Voilà. Donc je tenais à le dire parce que je crois que je lui avais dit que j'avais mis en mémoire ce qu'elle m'avait dit.
Et nous le rappellerons en fin d'entretien comment acquérir l'ouvrage, effectivement.
Oui, bien sûr. Et donc maintenant, nous abordons la question un peu piège et provoque qui nous semblait cependant intéressante à poser. D'après toi, Eric, pourquoi Louise Michel n'est pas évoquée dans cet ouvrage ?
Alors je pense que ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il y a déjà beaucoup de choses sur les personnages connus de la commune, les acteurs, les actrices connues de la commune. Bon, Louise Michel, alors je dirais que c'est le summum. Je pense que si on interroge quelqu'un dans la rue, alors si on demande pour le monument le plus connu à Paris, tout le monde dira la Tour Eiffel. Et si on parle de la commune à quelqu'un qu'on a vaguement entendu parler, il dira Louise Michel,
dans la majorité des cas.
Je me permets un peu cette comparaison entre les deux.
Oui. Et puis comme j'ai écrit... d'autres lieux, Louise Michel ne fait pas l'objet d'une notice, mais en a-t-elle vraiment besoin ?
Nous sommes bien d'accord.
Et d'autant qu'il y a tout de même deux illustrations où on voit Louise Michel, notamment on la voit quand elle est déportée, puisqu'elle a été déportée,
on la voit
sur le bateau.
Pour arriver en Nouvelle-Calédonie.
Tout à fait.
Bien sûr.
Où elle s'est liée d'amitié avec les Kanaks qui étaient en révolte.
Tout à fait.
À la différence de certains communards qui, eux, au contraire, ont participé à réprimer la révolte.
Tout à fait.
Comme quoi.
Donc on peut se révolter d'un côté et être versaillais de l'autre.
Eh oui, intéressant.
Et donc Eric, en tant qu'ancien enseignant d'histoire et de français en lycée professionnel, nous imaginons qu'il était important pour toi de participer à ce projet sur les inconnus de la commune, car il s'agit bien évidemment de s'évertuer à continuer le travail mémoriel débuté par l'association depuis déjà de nombreuses années. Donc tu pourrais nous partager en quelques phrases ton retour d'expérience finalement sur, en tant que prof, sur la transmission de l'histoire et de la mémoire de la commune de Paris.
Tout à fait.
Si je me rappelle bien, tu m'avais dit que tu en avais parlé avec tes élèves.
Tout à fait, j'ai même fait plus qu'en parler. Comment dire, j'avais la chance d'enseigner dans un lycée professionnel qui se trouve près de la Bastille, donc pas très loin du Père Lachaise.
Oui, bien sûr.
Et ni de la mairie du 11e, qui était aussi le lieu où se sont réfugiés les dirigeants, si on peut parler des dirigeants de la commune, au moment de la répression. Et comment dire, comme en histoire, il n'y a pas la commune, dans les programmes, je me suis arrangé pour le faire passer en français sous la forme de ce qu'on appelle dans notre jargon un groupement de textes. Mais c'était plus qu'un groupement de textes. Par exemple, j'ai distribué des paroles de, du temps des cerises hein, aux élèves. Je leur ai fait écouter deux ou trois versions différentes, dont celle de Cora Vauquer, qui, oui. je dois le dire, est ma préférée, hein, mm-hmm. parce qu'elle a une très belle voix, c'est mm-hmm. quelque chose d'extra. Ensuite, après cela, eh bien... on allait, on étudiait les textes. Alors les textes, j'avais choisi celui de Zola sur la répression dans la débâcle, hein, où le personnage central Jean assiste au fusillage, hein, je crois qu'on dit des communards, etc. J'avais aussi choisi un texte de Maxime Guillaume dans les carnets, dans les cahiers rouges du temps de la Commune, comme c'était un public féminin plutôt, puisque c'était un établissement de la couture. Hein. Oui. J'ai choisi le chapitre Henriette, la belle cantinière, et j'invite tout le monde à lire parce que c'est une écriture superbe. Et bien évidemment, l'inévitable Louise Michel, hein, vous l'avez compris. Et justement, quand elle parle de sa déportation en Nouvelle-Calédonie sur le bateau, où elle écrit un poème, etc. Mm-hmm. Hein, et c'est vrai que c'est un beau texte, un très beau texte. Hein. Mm-hmm. Voilà, et puis ensuite, eh bien, comme on n'était pas très loin, je les emmenais donc à la mairie du 11e. Oui. On voyait la plaque commémorative qui indiquait que ce bâtiment était flambant neuf du temps de la Commune. Hein. Mm-hmm. Et ensuite, je les emmenais au Père Lachaise, bien évidemment, devant le mur des fédérés et la tombe de Jean-Baptiste Clément.
Sur les tombes, etc. Bien sûr. Hein.
Et puis, de temps en temps, il y en a qui me demandaient... alors, on allait voir la tombe d'Edith Piaf ou celle de Jim Morrison au retour, quoi. Bon, c'était la facétie. Mmh. Et ensuite, pour terminer, j'avais ce DVD que je pense que vous connaissez les uns et les autres, qui s'appelle La Nouvelle Babylone. Alors, oui, c'est un film en noir et blanc. Alors, c'était bien évidemment muet, avec des sous-titres. Et c'est un... D'après ce que j'ai compris... Les scénaristes russes hein, des années 20 ont choisi le livre de deux livres de Zola, Au bonheur des dames, mm-hmm. hein, puisque la personnage travaille dans un grand magasin, oui. et aussi La débâcle, hein, puisqu'on voit le personnage central, Jean, qui participe à sa façon à la Commune. Mm-hmm. Et je dois dire que ce qui était intéressant, c'est que si on avait passé ce film comme ça d'emblée, ça aurait été le tohu-bohu dans la salle, mais après tout ce travail en amont,
oui.
eh bien, les élèves suivaient et on sentait qu'ils s'en imprégnaient.
Ah,
voilà, donc j'étais content, j'ai renouvelé l'expérience plusieurs années de suite, et quand je pouvais les sortir, parce que ça dépendait des emplois du temps, c'était que du bonheur.
Bah, bien sûr, donc en fait, on peut dire qu'ils ont été réceptifs à ta méthode pédagogique autour de la Commune.
Oui, voilà. Et puis j'invite, s'il y a des enseignants qui nous écoutent et des enseignantes qui nous écoutent, à aller dans cette direction parce que ça permet comme ça à la jeunesse de connaître cet événement historique qui a quand même une très grande importance puisque ça a posé en germe beaucoup de choses pour le progrès social et autant que possible une forme d'égalité dans notre société.
C'est quand même important de le rappeler, surtout en lycée professionnel quand même.
Surtout
hein,
en lycée professionnel.
Où, bon, il y a des élèves qui ne sont pas forcément toujours très favorisés hein, socialement. Donc je pense que c'était effectivement essentiel pour eux de savoir ça. Donc ils ont eu de la chance.
On peut le dire comme ça, merci Marie.
On peut le dire comme ça. et puis alors, petite question sur les futures publications de l'Association des Amis de la Commune de Paris. Tu travailles en ce moment sur une brochure, donc de quoi s'agit-il ?
Alors, toujours en rapport avec Marie-Claude Villard, on en a parlé.
Elle m'a quand même dire qui est Marie-Claude Villard, c'est quand même la responsable de la commission littérature.
Oui. Hein, voilà.
Dont nous sommes quelques-uns ici autour de cette table à faire partie.
Nous sommes d'accord. et donc, elle m'a montré le travail qui avait antérieur, qui avait été fait sur l'historique de cette association, qui est très ancienne, créée, Françoise, on a parlé déjà des gens, j'ai entendu.
Françoise, c'est-à-dire la secrétaire générale.
Françoise Bazire.
Françoise Bazire, la secrétaire générale. En fait, c'était les anciens communards lorsqu'ils rentraient d'exil,
il
y avait des sociétés d'entraide qui s'étaient formées et c'était la base de l'association des amis de la Commune.
Oui.
Ensuite, bon, il y a tout un historique et cet historique s'est arrêté en 2007 parce que je pense que les amis qui s'y sont attelés avant, pour une raison ou pour une autre, ont arrêté en 2007 peut-être parce que c'était l'année 2007 tout simplement.
Sûrement.
Et l'idée de Marie-Claude, c'était de dire, bah tiens, nous allons continuer ce travail, mm-hmm. en notamment focalisant sur le 140e anniversaire et le oui. 150e anniversaire.
Tout à fait.
Pas que, mais pour l'essentiel. Mm-hmm. Alors là, il y a un travail actuellement qui est en train de se faire,
voilà.
Gentiment, tranquillement, et puis bah, quand ce sera terminé, il y aura donc une suite, et non pas une fin, à ce travail.
Bien sûr, donc là en fait, on peut dire que c'est un tome 2 de la brochure sur l'histoire de l'association voilà, ou, des Amis de la
ou
Commune.
Ou un prolongement, ou un tome 2, voilà. On peut dire comme on veut, mais c'est vrai que ça peut être après, ultérieurement, suivi par un tome 3,
bien
etc.
Sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis bah, là, les archives se trouvent essentiellement dans nos locaux, hein,
dans
nos 46 locaux. Rue des 5 Diamants.
Tout à fait, donc, dans des boîtes cartonnées.
Voilà. On peut les consulter. Est-ce que un étudiant qui veut faire un mémoire peut consulter ces archives, peut venir à la bibliothèque?
Je pense que si. Il y a deux choses.
Il y a
la bibliothèque. Alors là, bien évidemment, il y a des permanences chaque mercredi après-midi de 14h à 17h.
Tout à fait.
Le mieux, si possible, c'est de demander avant pour être sûr qu'il y a quelqu'un déjà et puis que éventuellement préparer par rapport à la recherche qui sera faite. Mmh. Et puis là, il y a les archives, c'est un autre chose, ce sont des archives. Mais je pense que si quelqu'un s'y intéresse, on peut lui... Il n'y a rien de secret, hein, j'allais
je
dire.
Crois hein. Je crois que vous avez accueilli d'ailleurs les archives, enfin une partie des archives du regretté Jacques Rougerie.
Oui, tout à fait.
Il y a des archives qui ont vraiment une valeur tout à fait riche. Enfin, c'est passionnant. De voir.
Jacques Rougerie, qui est malheureusement décédé il y a relativement peu de temps.
Oui, il y a à peine un an.
Oui, c'est ça.
Exactement. Mais oui, concernant les archives de l'association, il y a effectivement une archiviste qui s'occupe de ces archives. Et donc, c'est un travail régulier hein, qu'elle fait plusieurs fois par mois. Donc c'est pas les archives concernant vraiment le fonctionnement interne de l'association ne sont pas forcément consultables pour tout
non,
le monde parce
non,
que bon il y a un énorme tri à faire bon voilà pour le moment on va dire que c'est sans fin mais en tout cas oui bien sûr tous les ouvrages que nous avons acquéris au fil de ces acquis pardon au fil de ces années sont bien sûr consultables sur place. Hein.
Alors, on a fait une réunion hier, d'ailleurs, et il y a 3000, les copains insistaient sur ce terme, les plus anciens, sur documents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des livres. Il y a aussi des affiches, il y a des brochures, et j'en passe.
Tout à fait. Voilà. Puis il y a aussi toute une série de bandes dessinées.
Et des bandes dessinées pour les plus jeunes. Il paraît qu'ils sont très bien faites.
Oui. Et puis elles sont empruntables aussi, hein, les bandes dessinées. Hein. Ça a été mis en place depuis à peu près un an. Elles sont empruntables. Il suffit de demander au secrétariat de s'inscrire. Et puis après, chacun prend son temps pour lire. Hein. C'est pas la bibliothèque de la mairie de Paris non plus. Hein, donc. Il n'y a pas de sanction en cas de retard.
Voilà, c'est pas les archives nationales.
Voilà, tout à fait.
Et alors, peut-être, on parlait tout à l'heure des acquis de la commune. Alors, c'est vrai que la commune de Paris, elle a eu 72 jours. Alors souvent, on a un certain nombre de personnages qui nous disent « Oui, mais enfin, il n'y a rien eu de concret, etc. » Bon, d'abord, elle a été un creuset, elle a été un lieu de réflexion de différents courants. On avait les courants socialistes, les courants anarchistes, les courants républicains, comme de Lecluse. Bon, et ces gens-là ont travaillé. Et par exemple, quels sont les grands points de la commune de Paris, sans poser une question piège?
Oui, comment dire, il y a déjà le rôle des femmes qui est fondamental, hein, qui ont revendiqué une place dans la société qui leur a été, disons, globalement refusée jusque-là.
Tout à fait.
Hein, et qui, à mon avis, a servi. Hein, je parlais tout à l'heure de 68, je parlais de 1971, le centenaire, et ça coïncide à peu près avec les mouvements féministes. Hein, donc ça, c'est déjà un point important. Il y a ensuite, je pense, des progrès aussi sur le temps de travail, sur une forme de législation du travail qui commençait à se mettre mettre en place.
Bah, le travail de nuit pour les,
par exemple,
pour les boulangers, bien exemple, sûr, les... l'interdiction du travail de
tout
nuit.
Tout à fait. Mmh. Des enfants aussi. Mmh. Et c'est, oui, c'est ça, c'est le fait que ça a duré peu de temps. Ça a duré deux mois, on va dire, deux mois et quelques.
Oui, hein. Deux mois et demi.
Voilà.
Quoi,
et par conséquent, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'après, avec la Troisième République, hein, qui a commencé de manière un peu bizarre pour le coup, il y a quand même des choses qui vont après se développer au fil du temps.
Voilà,
il y aura d'autres luttes.
Durée,
il y aura d'autres luttes, bien évidemment.
Bah, avec, avec peut-être la séparation des églises et de l'État, qui est un des grands points de la commune début avril. Mmh. Et puis on aura peut-être aussi dans le domaine de l'éducation, avec quelqu'un qui a réussi à s'en sortir, Ferdinand Buisson, qui était quand même un communard, qui était dans le 17e arrondissement et qui a réussi à avoir un rôle clé au ministère de l'Éducation nationale, où il a fait intervenir un certain nombre d'anciens communards quand ils sont rentrés. Je pense à Paul Robin, je pense à différentes personnes comme ça et qui ont pu participer à tout ce travail. Oui, donc en fait, elle est un point de convergence de différentes pensées, mais après, elle projette, elle est d'actualité encore, la commune, ou c'est un vieux truc ringard?
Alors, il y a deux façons de voir les choses. Hein. Ça, on peut considérer que c'est un vieux truc ringard, ou à l'inverse, dire qu'il y a quand même un héritage là, dans lequel on peut puiser, pour stimuler les luttes actuelles, parce qu'à mon avis, il y en a. Déjà, on le voit même aujourd'hui avec les agriculteurs, par exemple. On l'a vu avec d'autres mouvements.
Les Gilets jaunes, effectivement, pendant le mouvement des Gilets jaunes, il y en a beaucoup qui sont venus, qui se réclament un peu de la commune aussi. Quoi.
Voilà. Et puis, on a une jeunesse qui commence un petit peu à s'intéresser à ce patrimoine historique que nous avons. La France est un pays étonnant pour ça.
Oui, et vous l'indiquez bien dans le livre, d'ailleurs, à la fin du livre. Il y a quelques photos, des tracts, etc., qui montrent bien l'actualité de la commune,
et
que c'est pas le vieux truc ringard, quoi.
D'ailleurs, en 1971, le slogan était « La commune n'est pas morte, elle vit, elle vaincra ».
Voilà.
Donc ça veut dire que, comme on dit, l'idée est là.
Il y a la vieille formule. Le cadavre est à terre, mais l'idée est debout. Victor Hugo, Dixit, on connaît nos classiques quand même dans cette émission. Je pense aussi qu'il y a un tableau qui est à la fin qui montre bien le mouvement. C'est le tableau de Steinlein, la manifestation, qui est en fin d'ouvrage, où là, c'est intemporel, quoi. Il y a ce drapeau, drapeau rouge, qui est intemporel. Et vraiment, la commune n'est pas morte. Alors, on rappelle, Marie, peut-être, comment acheter
ce livre-là. Les modalités pour acquérir l'ouvrage. On peut se le procurer de plusieurs manières. Si, par exemple, on passe par le site internet, il y a le lien vers la boutique en ligne, le e-boutique, pour effectivement l'acheter. Donc il est au prix de 25 €, je le rappelle. Et puis sinon, donc téléphoner au local ou envoyer un mail aussi, parce qu'on fonctionne beaucoup par mail, donc sur l'adresse amis@commune1871.org. Donc voilà, envoyer un mail, je souhaite acquérir l'ouvrage des Inconnus de la Commune. Puis après, les modalités, soit la personne vient le récupérer au local, ou on peut aussi faire des envois par la poste, bien sûr. C'est aussi simple que ça. Hein, mais en tout cas, ça se passe vraiment au local, au 46 rue des 5 Diamants.
Il n'y a que... au local qu'on peut
tout
acheter
à fait, tout à fait.
Tout à fait. C'est l'exclusivité de l'association. Ouais. Et j'ajouterais quand même que pour les expéditions, je le tiens de Christine, il faut ajouter 10 euros par rapport
tout
aux 25
à fait.
Euros.
Généralement, c'est une dizaine d'euros de frais d'envoi pour les personnes qui sont en province, qui souhaiteraient l'acheter.
Très bien. Merci Eric. Donc tu es bienvenu, hein, bien évidemment,
pour
présenter le tome 10 bientôt de l'actualité de la Commune de Paris.
Voilà. Tout à fait. Donc nous te remercions beaucoup, Eric.
Hein, eh bien, merci de l'invitation. Ça a été un plaisir pour moi de venir à Radio Liberté.
Bah, nous aussi, surtout lorsqu'il s'agit de parler de la Commune.
Et pour terminer sur la Commune, temporairement, parce qu'on va en reparler, il y a encore d'autres livres qui viennent de sortir. Jean-Roger Cossimon chante L'espoir de la Commune est en lutte et demain nous vaincrons, Frédéric.
Sans doute, mon amour, on n'a pas eu de chance. Il y avait la guerre et nous avions 20 ans. L'hiver de 70 fut hiver de souffrance, et pire est la misère en ce nouveau printemps. Les lilas vont fleurir, les hauteurs de Belleville, les versants de la Butte et le bois de Meudon. Nous irons les cueillir en des temps plus faciles. La Commune est en lutte et demain nous vaincrons. Nous avons entendu la voix des camarades, les Versaillais infâmes approchent de Paris. Tu m'as dit, avec toi, je vais aux barricades, la place d'une femme est près de son mari. Quand le premier de nous est tombé sur les pierres, en dernière culbute, une balle en plein front, sur lui tu t'es penché pour fermer ses paupières. La Commune est en lutte et demain nous vaincrons. Ouvriers, paysans, unissons nos colères. Malheur à qui nous vole en nous avilissant. Nous voulons le respect et de justes salaires et le seuil des écoles ouvert à nos enfants. Nos parents ne savaient ni lire ni écrire, on les traitait de brutes, ils acceptaient l'affront. L'égalité, la vraie, est à qui la désire, la Commune est en lutte et demain nous vaincrons. Les valets des tyrans étaient en plus grand nombre, il a fallu nous rendre, on va nous fusiller. Mais notre cri d'espoir qui va jaillir de l'ombre, le monde va l'entendre et ne plus l'oublier. Soldats, obéissez aux ordres de vos maîtres, que l'on nous exécute en nous visant au cœur. De notre sang versé, la liberté va naître. La Commune est en lutte et nous sommes vainqueurs. La Commune est en lutte et nous sommes vainqueurs.
Depuis le début de l'émission, nous mentionnons rapidement les titres des ouvrages commentés. Vous retrouverez leurs références, comme à l'ordinaire, sur le blog Groupe Commune de Paris de la Fédération anarchiste. Et comme tous les livres que nous citons, vous pouvez les commander auprès de Publico, la célèbre librairie de la Fédération anarchiste, 145 rue Amelot. Et vous pouvez retrouver certains de nos commentaires sur la page Facebook Au fil des pages et sur la chronique Des idées et des luttes sur le site du Monde Libertaire. J'insiste sur le fait que pour l'ouvrage dont nous avons parlé avec Eric, le 1871, Les Inconnus de la Commune, il faut s'adresser à l'Association des Amis de la Commune de Paris 1871, 46 rue des 5 Diamants, Paris 13e, téléphone 01 45 81 60 54. Et comme Marie l'a mentionné, l'adresse courriel, c'est amis@commune1871.org. Bon,
Voilà, j'espère que, franchement, j'espère que vous serez nombreux à acheter ce livre, à l'offrir. C'est un très beau livre. Enfin, moi, j'ai été très marqué par la couverture. Vous savez que c'est un peu mon obsession. En couverture, vous avez une place, vous avez une barricade en construction avec des femmes au foulard rouge, des hommes en blouse bleue. La barricade est gardée par des soldats de la garde nationale. Il s'agit de la place Blanche et elle est peinte par Arnaud Durbet. Eh oui, on dépave, hein, on dépave et le peuple de Paris se prépare à la bataille et entend mourir dans la dignité. La notion de dignité qui était très forte chez tous les communards et les communards, la dignité et défendre les avancées de cette même commune. Pour reprendre la formule de Jules Vallès, la liberté sans rivage. Et regardez cette barricade quand vous achèterez le livre. Elle est parmi les dernières à caractère révolutionnaire de ce 19e siècle. Après, on aura d'autres barricades au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, Paris août 44. On aura en 68 des petites barricades. Bah, pas tout à fait les grandes barricades qu'on peut voir dans les photos. Sur la commune, mais à caractère révolutionnaire, c'est vraiment le grand moment, on pourrait dire, que les citoyennes et les citoyens de 1871 se tendent la main aux citoyennes et aux citoyens 1789, par-dessus tout ce 19e siècle, et d'ailleurs, n'oublions jamais qu'ils s'appelaient citoyennes et citoyens, et non pas camarades, ni compagnons, ni quoi que ce soit d'autre, c'était les citoyennes, la grande citoyenne, Nathalie Lemel et autres. Et puis, c'était aussi des gens qui chantaient la Marseillaise, puisque l'Internationale, c'est Eugène Petier qui l'écrira en juin 1871, et qui chantait aussi le chant du départ. Les chants révolutionnaires, c'était cela, avant que certains de droite essayent de récupérer la Marseillaise. Oui, vraiment, c'est un très beau livre et je fais un peu partie de ceux qui connaissent un peu la Commune de Paris et je dois dire que j'ai vraiment découvert des choses. On découvre encore des choses comme quoi les archives, c'est vraiment passionnant. Je voudrais vous dire deux mots avant que notre ami Dominique nous rejoigne. Le monde libertaire, le mois de janvier, le numéro de janvier du Monde Libertaire a pour thème la guerre, non à la guerre, c'est son titre, mais vous avez aussi des réflexions sur l'enfer néolibéral, sur les instituteurs et l'éducation nationale, comment peut-on être anarchiste, avoir une pratique pédagogique quand on travaille à l'éducation nationale. Et je signale aussi, profitons-en parce qu'on va avoir toute une série de livres intéressants à commenter. On a tout d'abord un livre du réseau MACNO, La pieuvre nucléaire, qui a été édité, là c'est tout récent, aux éditions du Monde Libertaire. On pourra parler aussi de Vanina, les leurs postmodernes contre la réalité sociale des femmes, toujours pareil, là aux éditions Akrati, et d'autres dont nous avons nous-mêmes parlé. Dominique nous rejoint à l'instant même. Allô Dominique.
Oui, bonsoir Francis.
Bonsoir. Alors, tu vas nous parler dans notre troisième temps de l'émission c'est un roman, c'est un témoignage. Qu'est-ce que c'est, Leonardo Padura, L'eau de toutes parts, vivre et écrire à Cuba?
Alors, c'est paru chez Métellière 2022, traduit par Elena Zayas. Alors, c'est plutôt un recueil d'articles de cet écrivain qui est né à La Havane en 1955. C'est aussi un journaliste, un essayiste, et il est connu pour ses romans policiers. Tu n'en as jamais lu, Francis?
Non, pas pour le moment.
Avec un commissaire appelé Mario Condé. Il est resté à Cuba tout en critiquant par le biais de ce commissaire les travers cubains. Et donc c'est vraiment ses avis à la fois sur Cuba, mais aussi beaucoup sur la création littéraire à Cuba.
Mm-hmm.
Et donc, alors, bien sûr, ses livres sont pas édités à Cuba. Hein, donc.
Mais il est pas en prison lui pour le coup.
Non. Alors vous allez comprendre pourquoi quand même il y arrive. Alors il dit je suis un écrivain cubain qui vit et écrit à Cuba parce que je ne peux ni ne veux être autre chose et que malgré les difficultés les plus diverses, j'insiste, j'ai besoin de Cuba pour vivre et écrire. C'est aussi simple que ça. Donc il n'a pas choisi l'exil comme la plupart des écrivains cubains. Alors et il en a subi des conséquences. Il était directeur d'une revue culturelle, il a été rétrogradé, devenu simple journaliste puis correcteur. Mais bon, il s'est lancé dans l'écriture, ce qui lui donne beaucoup de satisfaction. Alors, mais dans ce livre, on voit qu'il adore Cuba. Il adore marcher le long du Malecón, cette promenade là.
Oui, c'est quoi ? Excuse-moi, c'est quoi le Malecón ?
C'est une promenade de 8 km hein, sur le front de mer, donc qui est très, très courue par les Cubains et aussi les touristes. Hein. Et bon, il aime cette île, malgré toutes les difficultés. Il adore cette île et il ne se voit pas travailler ailleurs.
Et il parle de sport national, Dolce Farniente.
Oui, alors, il est très critique. Hein. Il dit, que les touristes, on les fait vivre dans la musique de pacotille, des marchés aussi où on vend des aliments qui sont pas toujours en grande quantité, d'ailleurs, pour les habitants. Oui, il se moque de l'addiction au baseball, à la pelota.
Mais donc, il rend aussi hommage, là, parlons un petit peu des autres écrivains cubains, il rend hommage à d'autres écrivains.
Oui, alors il pointe la constante de l'exil même avant que Fidel Castro n'arrive. Alors à commencer, j'ai découvert moi-même le poète José María Heredia y Campuzano, qui est le cousin de notre poète parnassien José María de Heredia. Donc ce poète a dû fuir en 1822, il est revenu en 1836 pour écrire un très beau poème, l'Aude Niagara, sur la nostalgie de sa patrie perdue. Alors après on a José Martí, un apôtre de l'indépendance cubaine qui était aussi poète, a vécu en exil. Alejo Carpentier, Miguel de Unamuno. Alors plein d'autres, hein, j'ai été vérifié, Del Casal, de Ruben Dario, José Lezama Lima, et alors Reinaldo Arenas, dont j'ai lu aussi un très beau livre qui s'appelle Avant la nuit, et qui raconte la chasse aux homosexuels quand Fidel Castro est arrivé. Même chose pour Piñera, qui est resté, mais qui a été arrêté pour délit d'homosexualité lors de la nuit, on appelle ça la nuit des 3P. En 1961, où ils ont arrêté les proxénètes, les prostituées et les pédérastes. Et Ernesto Padilla, dont je vais vous parler un peu plus loin.
Alors, il raconte ses espoirs déçus dans son livre ?
Oui, parce qu'au départ, c'était un fervent partisan de la Révolution. Hein. Dès 1950, il a vécu les grands enthousiasmes, l'arrivée de Fidel Castro, et ensuite l'installation du gouvernement, les avancées culturelles, les grands projets éducatifs. Bon, après, il a vécu avec un peu plus de scepticisme l'invasion culturelle slave russe, dans le cinéma, les dessins animés, tchèques. Bon, il a vécu l'internationalisme, la guerre en Angola, tout ça, c'était encore bien, on va dire. Hein. Il a vécu aussi les liens avec l'Amérique latine, les flûtes indiennes, pourtant étrangères à Cuba, les révolutions de l'Amérique latine, l'arrivée d'Allende au Chili.
Bon, alors, il y a eu un grand changement, un grand tournant.
Oui, alors c'est en 1971, un premier schisme avec l'affaire Padilla, donc ce poète qui a contesté les résultats économiques du régime castriste, a dû faire son autocritique, tu sais, comme on sait en URSS. Hein. Et donc, il a été emprisonné jusqu'en 1980. D'autres artistes ont suivi. Il y a eu également, en 1989, un procès digne des procès staliniens, le général Ochoa et Antonio de la Garda. Je ne sais pas si tu avais suivi.
Oui.
Puis alors en 1991, le départ des soviétiques et l'effondrement économique du pays. Et donc Padilla dit que la société égalitaire s'est transformée en strate. Il y a plusieurs havanes, les misérables entassés dans des bus au centre de la ville, la classe moyenne qui souffre aussi de faibles salaires, et les membres du gouvernement et leurs affidés qui, eux, peuvent voyager. Il y a beaucoup vivent dans des maisons communes, donc 40% de maisons communes sont en mauvais état. Donc il dénonce l'échec du communisme utopique, hein, qui a apporté beaucoup de corruption et surtout une improductivité totale. Parce que la population a perdu le sens du travail.
D'accord, bon.
Padilla est aussi furieux d'apprendre que Ramón Mercader, donc le meurtrier de Trotsky, a fini sa vie à Cuba, choyé par le gouvernement, bon, et il y mourut en 1978. Mais ça, la population ne le sait pas.
Alors, il parle aussi de fatigue historique, ça c'est original,
oui.
Ça.
Oui, alors il dit ressentir une fatigue historique, car les gouvernants le répètent sans arrêt qu'ils vivent dans l'histoire avec un grand H. Hein. Tout est historique à Cuba. Même les vieilles bagnoles américaines. Cuba supporte le poids de sa démesure, un pays qui a dû affronter un destin, qui en a fait un espace plus grand que son territoire, victime de l'histoire. Et il dit que c'est une île dont l'importance et la renommée sont surévaluées, sont surfaites. Et donc beaucoup ressentent un sentiment d'insularité géographique, morale et légale, puisqu'on ne peut pas sortir sans autorisation du gouvernement, hein. Et Padilla dit à un moment, je voudrais être Paul Auster, parce que quand on interroge Paul Auster, cet écrivain américain, on l'interroge sur sa littérature. Alors qu'un écrivain cubain doit toujours endosser la responsabilité de son pays. Alors, chaque fois, on lui demande, et Cuba, hein, il est rarement interrogé sur sa créativité littéraire.
D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ce que nous sommes en train d'évoquer, là, c'est quand même beaucoup sur l'histoire de son pays. Hein.
Oui,
c'est pas tellement sur la littérature. Hein.
On
y viendra plus tard, peut-être.
Oui. Bon, et bien sûr, il dit que la situation actuelle n'est pas brillante. Le gouvernement met en place, en fait, un spectacle pour les touristes, avec le rappel d'Hemingway, la musique de Pacotille, des couleurs délabrées, toujours les grosses américaines décapotables qu'il faut négocier à des prix exorbitants pour quelques jours sur le Malecón, des magasins avec des produits en faible quantité et une prostitution effroyable. Et Padura est même très critique sur ses compatriotes. Il dit à un moment, nous avons réussi à produire des fils de pute en quantité industrielle.
Bon, c'est lui qui le dit, hein, c'est pas
nous. Bon.
Alors, la création littéraire, alors, c'est
oui,
pas
ce alors, coup, hein. Oui, c'est une note plus optimiste. Hein. D'abord, il dit que les écrivains cubains qui sont restés, ils ont appris à voir les limites, hein, dans leurs écrits, à savoir ce qu'il fallait dire ou pas dire. Alors, mais souvent, il se pose la question, pourquoi écrire un roman, surtout dans les conditions actuelles? Alors lui, il dit, pour donner des clés, expliquant la perversion de l'utopie égalitaire, pour dénoncer la censure, pour chasser l'ignorance, l'accumulation d'expériences vitales et le lien entre l'imaginaire et les faits sont l'essence du roman. Padura parle de nécessité, d'obsession, l'existence d'une idée, d'une situation qui intéresse l'écrivain. C'est la possibilité d'exercer un libre arbitre et sa liberté individuelle, même dans un espace contraint. Alors, il se trouve sur la même lignée que Kundera, hein, dont sa petite nation avait été aussi occupée par l'envahisseur russe. Et il rend hommage aussi à Manuel Vasquez Montalban, qui a connu les geôles de Franco et qui a mis en scène aussi un commissaire célèbre à Barcelone, le commissaire Pepe Carvalho, qui vit la transition démocratique. Hein. Donc, pour Padilla, être un auteur engagé, c'est écrire pour comprendre le monde, réfléchir et aller dans l'âme des choses, hein, comme le disait Flaubert.
D'accord.
Voilà.
Prochain livre.
Oui, je voudrais dire qu'il a publié cette année aussi son dernier roman policier qui s'appelle Ouragan Tropico, toujours chez Métellier.
Chez Métellier, d'accord.
Oui.
Alors, le prochain livre.
Oui, alors c'est un livre qui fait fureur en Allemagne, qui est en tête des ventes, La diplomate de Lucie Frick, paru au Quartanier, je ne connais pas cette maison d'édition. Oui, c'est une maison allemande. Et que je mettrai en parallèle avec un roman policier écrit par un descendant de Lyoté, Renaud Lyoté, Les saisons inversées. Ces deux livres abordent la question des diplomates en poste et comment ils vivent leur métier qui devient très très difficile.
Très bien.
Dans les pays dangereux. Bon. Voilà.
Eh bien, écoute, merci. Donc, on se retrouve dans une quinzaine de jours. À bientôt, Dominique.
Allez, bon
au revoir. On
parlait justement de, ben on parlait de Trotsky là, ben justement, moi je voudrais qu'on aborde un ouvrage là. Nous sommes sur la fin de l'émission, sur la question du surréalisme et de une biographie d'un certain André Breton, Le fil rouge des enchantements, publié par Jean-Pierre Plisson aux éditions du Travail en 2021. Le surréalisme, que signifie ce mot aujourd'hui? Alors, un adjectif pour qualifier une situation absurde, prononcé un peu avec une touche de dédain. Pourtant, le surréalisme et la révolution surréaliste, pour reprendre le titre de la revue la plus importante de ce mouvement, ont pesé dans les débats politiques jusque dans les années 60, jusqu'à la fin des années 60. Et des hommes comme Pierre Naville, Benjamin Perret ont joué un rôle majeur, mais c'est indéniablement André Breton qui constitue le pivot de ce courant. Et après sa mort en 1966, bah, plus rien ne fut comme avant, et la suite fin était écrite, et Jean-Pierre Plisson a publié en 2021 donc cette dense et précise biographie sur ce personnage. L'écrivain, l'orateur, le penseur se révèle un acteur de sa vie et de ses années si riches en débats. Il suffit de découvrir la photo de son intervention de la salle, depuis la salle, lors d'une conférence de Tristan Tzara pour comprendre que ce n'était pas un intellectuel de salon, mais qu'il était, il savait aller à l'affrontement. Alors, le texte le livre de Plisson insiste aussi sur le lien très étroit avec le courant trotskiste et la fascination que Breton avait pour Léon Trotsky. Cependant, le surréalisme ne se limite pas à cette dimension politique, et pour répondre à la formule de Breton, transformer le monde, a dit Marx, changer la vie, a dit Rimbaud, ces deux mots pour nous ne font qu'un. Je cite Plisson, le surréalisme a pourtant sollicité fortement la vie et posé des questions qui incluent et dépassent en même temps celles de l'art. Comme nul autre mouvement avant lui, sa place est hors catégorie. Il s'agit de l'émancipation totale de l'homme, disait Breton. C'est cette emprise, sur cette question à laquelle se ramènent toutes les autres que le surréalisme a surgi. Breton est né en 1896 dans l'Orne. Il commence par faire des études médicales, mais c'est la littérature qui l'intéresse. Il s'intéresse à Rimbaud, à Mallarmé, et il y a cette formule « un coup de dé jamais n'abolira le hasard ». Superbe phrase. Breton vise Paris. Et il lit le libertaire, l'anarchie, et proclame que l'art est la révolte au sens le plus élevé du terme. Il est au Prix Saint-Gervais en 1914, vous savez, au moment où il y a cette grande manifestation pour demander pour la paix et puis contre toute politique belliciste. Mais après 1917, il commence à utiliser le terme surréalisme. Pour lui, l'art n'est pas une fin, la poésie doit mener quelque part. Et puis les événements s'enchaînent. Et Plisson nous fait rencontrer Tzara, la défense de Germaine Berton, découvrez-la dans le dictionnaire des anarchistes ou dans le dictionnaire tout simplement du Métron. Breton s'affirme comme révolutionnaire. Rappelons-nous la déclaration « La révolution d'abord et toujours » en 1925. La densité des pages nous permet de dépasser la simple relation de la vie de Breton pour parler des débats avec le Parti communiste, le stalinisme, les divisions au sein des sensibilités politiques de l'époque, et puis Aragon qui bascule dans le stalinisme avant d'avoir été surréaliste, Dali qui lui se rapproche de l'extrême droite franquiste. Ces pages sont passionnantes, tout comme la proximité avec Trotsky, l'objet d'une chasse à l'homme incessante, et la rencontre au Mexique. Trotsky-Breton scellera une collaboration étroite, notamment avec le manifeste pour un art révolutionnaire indépendant. Oui, cette biographie constitue une histoire du surréalisme, et si Breton n'est pas le démiurge de ce surréalisme, il en est néanmoins un acteur clé. La vie sera dure pour Breton au début de la Seconde Guerre mondiale. Il se réfugie
à New York. Et de retour à Paris, il voit le poids du Parti communiste. Il est de tous les combats pour défendre Henri Miller, attaqué pour ses livres licencieux. Nous avons parlé il y a quelque temps dans notre émission de Jour tranquille à Clichy. Il défend la cause algérienne. Il est contre la guerre au Vietnam. Il publie dans Le Libertaire, il publie « Nous estimons qu'une large révision des doctrines s'impose ». La collaboration des surréalistes au Libertaire, l'ancêtre du Monde Libertaire, va durer 16 mois. Et les pages consacrées à ces relations houleuses sont intéressantes, d'autant que les textes sont disponibles. Et on retrouvera Breton en 1956 dans un meeting pour dénoncer la répression qui atteint le journal La Vérité, et Le Libertaire, justement. 1956, c'est la guerre d'Algérie, etc. On ne peut pas dire qu'on était en pleine démocratie. C'est quand même, en tout cas, sur la liberté d'expression. Et les débats continuent avec force. Mais après le décès de Breton, c'est l'après-Breton. Et le surréalisme rencontrera mai 68, inspirant quelques slogans. Et puis la dissolution est prononcée en 1969 par Jean Schuster. Une passionnante biographie de celui que Joyce Mansour appelait le grand oiseau cramoisi des vrais beaux jours. Jean-Pierre Plisson, André Breton, le fil rouge des enchantements aux éditions du Travail en 2021. Et puis je terminerai par un livre... Ressac. En couverture, une vague tempétueuse. Là, on est plus dans le domaine, plus dans le son des mots. Vous allez voir, c'était très, très, très bizarre. En couverture, une vague tempétueuse, marron, blanche, noire, un peu comme du sang séché. Et le lecteur reconnaît le style de Victor Hugo. Et oui, Victor Hugo dessinait. Oui, Ressac. De Clarisse Griffon du Bellay, paru chez Maurice Nadeau, collection Avif. J'ai toujours su pour le radeau, écrit l'autrice. Mais quoi ? Et quel radeau ? Le plus célèbre, celui de la Méduse. Et chez les Griffon du Bellay, on cache un grand secret. Une affaire vraie. Une affaire de famille. Joseph, Jean, Baptiste, l'ancêtre, médecin sur le bateau, fait partie des 15 survivants du naufrage. Et... sur un livre version officielle, il apporte, lui, des annotations qui ne seront pas publiées, des précisions effroyables. Clarisse ressent une angoisse dans sa vie de jeune fille, de femme, une crise d'adulte. Il apparaît comment ce radeau ? Eh bien, Clarisse, qui est une artiste, le voit, ce radeau. Elle le voit. Elle travaille le bois, la matière, elle sculpte. Et la chair transparaît. En l'espèce, les mots pour le dire ne viennent pas aisément. Le bateau, la tempête, les décisions maladroites, le radeau, des hommes face à la mer, le radeau se fait piège à hommes. Survivre, c'était faire de la place. Survivre, c'était faire de la place. La version officielle, vous la lirez, mais les annotations de l'ancêtre, les silences, l'absence parle aussi. Oui, on va tuer. Et on va tuer pour se nourrir, et dès le troisième jour, et il l'écrit. On va manger les morts. De toute façon, la mer mange tout le monde. On coupe des tranches. Le goût inconnu, le dégoût qui passe. Soyons clairs, c'est du cannibalisme organisé. Et l'ancêtre en a mangé. Il a participé au massacre à plusieurs reprises. Et je vois certains qui font une drôle de tête autour dans le studio. Je cite Clarisse. « Je suis la chair de la chair née de cette digestion première. » Moi qui suis plutôt blasé, j'ai eu comme un effet d'écœurement, je ne vous cache pas. Alors, ce n'est pas évidemment une critique. Et Clarisse, si elle m'écoute, quand elle m'écoutera et quand elle lira mon texte, évidemment, ce n'est pas une critique, mais je salue au contraire la force d'écriture. C'est un style fascinant, prenant. Et on est porté par ce qu'écrit cette jeune autrice. Et les chairs sacrilèges sont dans le sang de l'autrice.
une jeune femme de nos jours. Elle travaille sa sculpture, que je vous invite à découvrir sur Internet. Vous entendrez quasiment les sculptures crier leur douleur. C'est assez rare, moi je suis... mais vraiment, là, vous voyez l'horreur, quoi. Il n'y a pas de mièvrerie, il y a des cauchemars. Et cette création par la sculpture et présentement par l'écriture, c'est un livre fascinant. Et le livre à noter, le livre officiel à noter, non publié, est resté pendant des dizaines d'années dans la famille. La honte, la peur sociale empêchaient toute diffusion. Je ne vous dis pas tout, lisez le livre de Clarisse. Vous découvrirez aussi ce qu'est devenu cet ancêtre et le lien de Clarisse avec son père, un très beau passage. Alors, comment vit-on cette pression? Eh bien, elle l'écrit. Nous recevons notre part de culpabilité. Nous avons encore un tout petit moment, donc je vous propose la page 110. C'est vraiment la conclusion du... Voilà. Comment se délivre-t-on d'une histoire comme celle-là? Après toutes ces années à tenter de la comprendre, de la faire sortir, je n'ai pas su la refermer, tout m'y renvoie. Chaque geste qui m'a semblé être une clôture n'a été qu'une étape. La publication des annotations n'a pas été suffisante. Et oui, les annotations, vous pouvez les lire aujourd'hui. Elle n'a pas été assez lue, elle n'a pas été assez publique. Je veux prouver qu'elle peut être publique sans renverser nos vies et que tout peut être dit. Un livre prenant, passionnant à lire. Clarisse Griffon-Dubellay, Ressac, aux éditions Maurice Nadeau, collection Avif, publiée en 2023. Et bien voilà, mes amis, c'est terminé. Enfin, voilà les livres que nous souhaitions vous présenter. C'est terminé pour aujourd'hui dans Au fil des pages. Merci pour votre fidélité, votre écoute. Et le mercredi 14 février 2024, nous recevrons le relecteur du livre Terreur, la terreur sous Lénine, publié aux éditions L'Échappée. D'ici là, bonne lecture et l'équipe d'Au fil des pages vous souhaite ni Dieu ni maître, toujours avec Léo Ferré. À bientôt et au plaisir de partager.
Avec la peur qui tend la patte, le ministère de ce prêtre et la pitié à la fenêtre et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître. Le fardeau blême qu'on emballe comme un paquet vers des étoiles tombe froide sur la dalle et cette rose sans pétale, cet avocat à la serviette, cette aube qui met la voilette pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Ces voix que l'on dit de justice et qui poussent dans les supplices et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service. Cette procédure qui guette ce que la société rejette sous prétexte qu'ils n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style ce gris qui n'a pas la rosette. Cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite. Ni Dieu, ni maître, ni Dieu, ni maître.
Ouais. Un drôle d'accent, ce gars-là.
L'enfant dans ton vélo, dans ton drôle de doigt.
On va passer faire les gars. Qu'est-ce qu'il fait? Non mais ça va pas, mon petit gars. On va le mettre en prison, ce type-là.
Femme libre.
Femme qui se libère.
Femme qui prenne la parole.
Femme qui témoigne.
Femme qui crée.
Femme qui se révolte.
Femme qui lutte.
C'est Femme Libre sur Radio Libertaire.
Reconnaissons-nous les femmes. Parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime les femmes. Ensemble, libérons-nous. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves.
C'est Femmes Libres sur Radio Libertaire.
À toutes et tous. C'est la quatrième émission de cette année 2024, émission féministe et anarchiste. Pour combattre le patriarcat, le capitalisme, les religions, en fait tous les pouvoirs qui nous oppriment, nous exploitent, nous discriminent. Nous sommes sur Radio Libertaire pour 2 heures d'antenne de l'émission Femmes Libres. Radio Libertaire, c'est la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Et avec nous en régie, c'est Sylvie. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Hélène.
Et nous avons des invités, mais on en parlera un petit peu plus tard. Je rappelle que l'émission, c'est tous les mercredis entre 18h30 et 20h30. Que pour nous suivre, on peut aller sur le blog émission-femmeslibres.blogspot.com et on peut réécouter donc les émissions, avoir le programme. Et on peut aussi nous suivre sur Facebook et Miss Cloud. Alors, le programme ce soir, en 3 temps, opus poétique, lien de sel de Denitza Bancheva aux éditions L'Atelier du Grand Tétras. Ensuite, eh bien, une voix connue de Radio Libertaire, puisqu'il y aura Agnès Rougier, autrice, compositrice, qui nous présente l'album Trash du duo Intérim avec son coéquipier Michel. Et puis nous terminerons par des informations, des communiqués, des rendez-vous. Mais nous commençons toujours, malheureusement, par féminicide, par compagnon ou ex.
Encore un drame de la séparation. À Metz, un gendarme a tué sa femme avant de se suicider.
Une mère de famille battue à mort à Montpellier. Selon les voisins, elle était prisonnière
de Metz. Une marche est organisée pour une adolescente de 13 ans brûlée vive par son père.
Le jeune homme avait tué sa petite amie par jalousie.
Une nouvelle série de viols et de meurtres sordides de femmes en Inde et au Pakistan.
Du nouveau dans l'affaire Pistorius, le champion a été reconnu coupable d'homicide involontaire.
Une femme enceinte et ses deux enfants ont été retrouvés.